Radio Prague, les informations.
Bonjour à tous et à toutes à l'écoute de ce bulletin d'information. Les principaux titres aujourd'hui, le gouvernement n'exclut pas de racheter la société minière au Cadet. Drogue, rencontre des ministres tchèques et vietnamiens de l'intérieur pour un renforcement de la coopération et la loi sur la fonction publique au menu de Yejidinsbir à Bruxelles. Dans le cas où New World Resources venait à mettre en vente la société minière OKD basée à Ostrava en Moravie-Silésie, le gouvernement n'exclurait pas de la racheter. C'est en tout cas ce qu'a déclaré à la télévision ce lundi le ministre de l'Industrie et du Commerce, Jan Mladek. Pour le social-démocrate, la priorité est de sauvegarder l'emploi des 14 000 salariés d'OKD au moins pour 10 ans. La firme New World Resources a annoncé la semaine dernière qu'elle envisageait de vendre ses entreprises déficitaires, dont OKD. Le ministre de l'Intérieur, Milan Chovanec, rencontre son homologue vietnamien Nguyen Thai Binh ce lundi à Prague pour discuter du trafic de stupéfiants organisé par des ressortissants de la minorité vietnamienne en République tchèque. Une convention portant sur le rapatriement au Vietnam des condamnés et une coopération policière est en cours de préparation. La République tchèque estime qu'une coopération internationale est nécessaire pour introduire les groupes vietnamiens producteurs de drogue, souhaite que les Vietnamiens condamnés en République tchèque purgent leur peine dans leur pays d'origine. Le ministre en charge des droits de l'homme, Yejidinsbir, est à Bruxelles ce lundi pour présenter à la Commission européenne le projet du gouvernement tchèque de loi sur la fonction publique. Il s'agit pour le social-démocrate de rassurer les autorités européennes qui ont menacé la République tchèque de lui couper l'accès aux fonds européens si Prague ne met pas en place un cadre légal permettant d'assurer la neutralité et le professionnalisme des agents de l'administration publique. La Tchéquie est en effet le dernier pays de l'Union européenne à ne pas disposer d'une telle législation. La Commission européenne s'inquiète notamment du fait que certaines mesures prévues dans le projet de loi ne prendraient pas effet avant 2017. À Bruxelles, Yejidinsbir doit également rencontrer le commissaire européen en charge des affaires sociales. Entamée le 13 juin, la 56e édition du Festival international de musique d'opéra et classique Smetanova Litomyshl, la Litomyshl de Smetana, s'est achevée dimanche avec un grand concert au programme duquel figuraient quelques-unes des plus belles œuvres des compositeurs tchèques. Pour l'occasion, le concert, donné comme de tradition dans la cour de château, a été projeté également sur grand écran dans les jardins du monastère. Situé en Bohême de l'Est, Litomyshl, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, est la ville d'origine du compositeur Bedřich Smetana. Du sport à présent, c'est en qualité de tenante du titre que l'équipe masculine de République tchèque de roller hockey attaque le championnat du monde organisé cette année à Toulouse. Le premier match du tournoi senior entre la France et la Suisse sera disputé ce lundi soir. Depuis 2005, les Tchèques, qui comptent une nouvelle fois parmi les favoris de ce rendez-vous annuel de l'élite du hockey en patin à roulettes, ont toujours terminé le mondial sur le podium. Pour leur premier match, mardi, ils seront opposés à la Grande-Bretagne. Les États-Unis et la Suède sont les deux autres pays figurant dans leur groupe. On termine avec la météo. Ce mardi, jour de la fête des Noras, le temps devrait être similaire à ce lundi avec des orages en fin de journée et autrement du soleil partout. Voilà, c'est la fin de ce bulletin d'information qui vous était présenté par Pierre Ménian. La suite du programme, c'est maintenant en compagnie de Lucie Dalaselova.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour et bienvenue à l'écoute de la suite de cette émission en langue française de Radio Prague. Un grand merci à Pierre Ménian pour son bulletin d'information. Dans ce magazine d'actualité, nous allons présenter un nouveau rapport portant sur les conditions du travail dans l'industrie du vêtement en Europe orientale. Avec au téléphone Peter Marej de l'ONG Nazemé, nous analysons les principales conclusions de ce rapport ainsi que les raisons de l'absence de la République tchèque dans celui-ci. Et puis, notre envoyé spécial au Festival international du film à Karlovy Vary, Alexis Rosenzweig, nous offre un bilan à mi-parcours de cet événement cinématographique majeur. Et la seconde partie de cette émission, c'est le sport, et bien évidemment, il est consacré au tennis et au succès tchèque à Wimbledon. Dans quelques instants, Guillaume Narguet nous rejoint en studio pour nous en dire plus. Vous écoutez Radio Prague, très bonne écoute. Les salaires dans l'industrie de l'habillement en Europe orientale ont fait l'objet récemment d'un rapport de l'initiative Clean Clothes Campaign, une ONG néerlandaise dont l'interlocuteur tchèque est l'association Nazeme, sur Terre en français, basée à Brno en Moravie. Leur nouveau rapport complète les études portant sur les conditions de travail dans les pays du Sud et montre que le bas niveau des salaires dans ce secteur constitue une règle globale. Selon les données de l'Organisation mondiale du commerce, les pays de l'Union européenne réalisent près de la moitié de leur commerce de l'habillement entre eux. Sur le marché intra-européen, les pays d'Europe centrale et orientale, les PECO, ont un attrait significatif pour les producteurs de vêtements. La proximité d'approvisionnement, la main-d'œuvre qualifiée et un marché du textile dérégulé sont autant d'éléments qui jouent en faveur de la relocalisation des producteurs d'habillement dans la région. Cette relocalisation se fait non seulement depuis l'Europe de l'Ouest, mais aussi les pays du Sud. Après l'accident de Rana Plaza au Bangladesh, où un immeuble abritant plusieurs ateliers travaillant au service de grandes marques de prêt-à-porter s'est effondré en avril 2013, causant la mort de plus d'un millier de personnes, plusieurs compagnies ont annoncé leur volonté de produire ailleurs, notamment dans les PECO. Cependant, le rapport de Clean Clothes Campaign révèle que les conditions de travail, notamment salariales, ne sont guère meilleures en Europe. Membre de l'ONG Nazeme, Petr Mareš présente la principale conclusion du rapport.
L'étude démontre que l'existence de meilleures conditions salariales à l'Ouest est un mythe. Au contraire, il apparaît que les travailleurs dans les PECO ou dans l'Europe du Sud-Est sont confrontés à des conditions de travail similaires.
Au niveau des salaires, le rapport confirme que les rémunérations dans l'industrie de l'habillement se situent partout à un niveau inférieur au seuil de pauvreté. Défini par l'Union européenne, celui-ci représente 60% du revenu médian. En Slovaquie, par exemple, pays dont le contexte est le plus proche du Tchèque, le seuil de pauvreté est de 406 euros. Si le salaire mensuel moyen net des employés dans l'industrie de l'habillement est de 392 euros, le salaire minimum légal est de 100 euros inférieur à cette somme. Parmi les autres maux détectés lors de la rédaction du rapport figure l'emploi des travailleurs indépendants contraints de prendre eux-mêmes en charge leurs frais d'assurance, le non-respect du droit au congé ou encore les pressions dissuasives exercées contre les syndicaux. Toutefois, quand on se penche sur la situation en République tchèque, les recherches restent vaines et Petr Mareš explique pourquoi.
La raison est assez terre à terre. Pour des raisons financières, nous n'avons pas pu réaliser une telle recherche au niveau national, ce qui ne nous a pas permis de faire partie de ce rapport. Néanmoins, selon les données dont nous disposons, en République tchèque, un peu plus de 11 000 personnes travaillent dans l'industrie de l'habillement. En prenant en compte les employés de l'industrie du textile, nous parlons d'environ 30 000 personnes. Dans les années 1990, le nombre de postes dans l'habillement a rapidement baissé. Aujourd'hui, le secteur stagne. Le salaire moyen est de 14 000 couronnes, 520 euros. On peut en déduire que les travailleurs tchèques, en majorité des femmes, n'atteignent pas, eux non plus, le salaire minimum vital qui les protégerait du risque de la pauvreté.
Par ailleurs, le souvenir de l'écroulement de la production tchèque de vêtements est encore vif. Il y a 15 jours à peine de cela, les usines de ce qui était le plus grand producteur tchèque du prêt-à-porter, OP Prostějov, ont été dynamitées après la faillite de l'entreprise suite à sa privatisation dans les années 90. Le procès en justice pour fraude et corruption impliquant les anciens responsables de OP Prostějov n'est toujours pas achevé. Néanmoins, pour ne pas devoir extraire les conclusions des rapports régionaux et afin de disposer de données exactes et récentes sur les conditions de travail dans l'industrie de l'habillement en République tchèque, un rapport national est nécessaire. L'ONG Nazeme prévoit son lancement pour la fin de cette année avec un budget de 3 000 euros et avec plusieurs mois de recueil et d'analyse des données. Le Festival international du film de Carlo Vivari bat son plein en ce début de semaine. Mel Gibson pour Hollywood, Lech Walesa pour la Pologne ou encore Fanny Ardant pour la France. Plusieurs invités de marque sont déjà arrivés dans la station thermale où des dizaines de milliers de festivaliers alternent entre projections et fêtes nocturnes. Au micro d'Alexis Rosenzweig, le directeur artistique du festival, Karel Hoch, a tenté de faire le bilan à mi-parcours de cette 49e édition qui prend fin samedi soir.
Bonjour Karel Hoch.
Bonjour.
On est bientôt à mi-parcours déjà du festival de Carlo Vivari, 49e édition. Comment ça se passe jusqu'à maintenant ?
Ça se passe bien, on reçoit beaucoup de filmmakers très intéressants, et il y a beaucoup de gens. Dans ce moment-là, on a 30% plus de festival pass vendus. C'est parce que le premier week-end, il y a aussi des fêtes nationales. Donc, on a vraiment beaucoup de gens, et quand les cinémas sont pleins, nous sommes très heureux.
Comment ça se passe, je me demandais, pour le choix de la star qui vient pour l'inauguration du festival. Est-ce qu'on a plusieurs choix? On coche ceux qui peuvent, ceux qui ne peuvent pas, et après on décide, on essaie de les avoir?
On a eu une groupe de vedettes, de stars, de réalisateurs, des acteurs qu'on approche chaque année. Et ils sont souvent très occupés. Et donc on attend le moment juste pour faire venir une vedette. Cette année, c'était le cas de Mel Gibson qui est venu de tournage de son film. Et il a monté l'avion et il retourne aujourd'hui au tournage. Donc, il a passé 3 jours libres à Carlo Vivari, 15 000 km loin de tournage.
Sans controverse?
Sans controverse, avec beaucoup d'amour, avec beaucoup d'intérêt des spectateurs de Carlo Vivari, on a introduit une chose très nouvelle et très intéressante. Hier soir, on a organisé une talk show en direct dans le Grand Hall. C'était une demi-heure de conversation avec Mel Gibson avant des projections d'Apocalypse. C'était vraiment fantastique.
Le festival de Carlo Vivari est réputé notamment pour sa série et sa compétition East of the West, qui n'est pas la compétition principale. Est-ce que vous attirez de plus en plus de gens uniquement sur ce créneau?
On essaie. C'est pas facile parce que il y a plusieurs festivals avec lesquels on a une compétition. Nous sommes amis avec des festivals, mais on a le même intérêt dans les films des jeunes réalisateurs de l'Europe de centrale, de l'Est. Donc, vous avez dit que c'est pas la compétition principale. On essaie de la faire en des deux principales compétitions. Mais je pense qu'on a réussi de mettre ensemble une douzaine de films très intéressants qui déjà attirent l'attention des journalistes ou des gens de l'industrie de l'étranger. Et on a des feedbacks très intéressants. Donc, ça semble qu'on a réussi, mais on va voir.
Vous parlez de ces festivals concurrents, lesquels par exemple?
C'est plutôt Saint-Sébastien ou Locarno, parce que vous pouvez voir dans les programmes de ces festivals de plus en plus de films de l'Europe de centrale et l'Est. C'est une compétition saine et fondée, basée sur l'amitié et sur la discussion avec des directeurs de festivals à propos de certains films. Oui, je suis content pour les producteurs qu'ils ont plusieurs choix, mais en même temps, c'est pas facile de faire la décision parce que si vous êtes un producteur et vous avez une invitation d'un festival qui se déroule en juillet et une possibilité d'invitation d'un festival qui se déroule à la fin de septembre, et vous êtes forcé de faire une décision, c'est vraiment difficile.
Est-ce que vous avez déjà une idée des événements de la 50e édition?
Bon, on a commencé de faire les projets il y a 6 mois déjà, parce que on nous demande souvent et qu'est-ce que vous, de ce que nous on prépare pour la 50e édition. Et on a commencé déjà les préparations. On a l'intention d'introduire les choses nouvelles. Ça, c'est vraiment intéressant, peut-être les activités du Festival Nouvelle. Et c'est pour ça qu'il faut commencer vraiment tôt.
Donc beaucoup de travail.
Mais oui, il y a beaucoup de travail, mais moi personnellement, j'ai difficulté de considérer mon métier un travail. C'est une façon de vivre plutôt.
Merci beaucoup, Karel Orr.
De rien, merci à vous.
À la fin de ces faits et événements, l'équipe de Radio Prague vous invite à suivre l'émission sportive de Guillaume Narguet. La semaine dernière a été la semaine des femmes tchèques à Wimbledon et elle l'est restée jusqu'au bout. 4 tchèques en huitième de finale, 3 en quart, 2 en demi et une dernière en finale, victorieuse. Après un premier sacre en 2011, Petra Kvitova a remporté samedi le plus grand tournoi au monde pour la deuxième fois de sa carrière. En moins d'une heure de jeu, la tchèque, auteur d'une prestation quasi parfaite en finale, a littéralement balayé la canadienne Eugénie Bouchard en 2-7, 6-3 et 6-0. Après la légendaire Martina Navratilova, Petra Kvitova est aussi accessoirement devenue la deuxième joueuse tchèque de l'histoire à s'imposer plus d'une fois sur le gazon londonien. Retour sur une performance qui marquera l'histoire du sport tchèque avec Guillaume Narguet.
Sport en République tchèque.
Byla razance, to bylo neuvěřitelné. Já jsem neviděl, jsem si říkal, jsem rád, že tam nejsem na druhé straně. Jsem si právě chtěl představit, co bych s tím dělal.
Il y avait tellement d'énergie et de force dans son jeu, c'était incroyable. Je n'avais encore jamais vu ça. Je me suis même dit que j'étais contente de ne pas être de l'autre côté du filet. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si ça avait été le cas.
Sortie de la bouche de son idole, Martina Navratilova, maître de séance à Wimbledon avec ses 9 titres, rien qu'en simple, ces mots avaient presque valeur de seconde récompense pour Petra Kvitova, quelques minutes après la remise officielle et traditionnelle du trophée des mains du duc de Kent. On annonçait un match indécis et équilibré, on disait que ce serait du 50-50 entre une Petra Kvitova en fin de retour au plus haut niveau et une Eugénie Bouchard haut dans l'ongle qui, après 2 demi-finales consécutives à l'Open d'Australie et à Roland-Garros, s'apprêtait à disputer sa première finale d'un grand chelem. Il n'en a rien été sur un centre-court qu'elle apprécie tout particulièrement. Petra Kvitova, pourtant pas apparue comme spécialement pressée d'en finir, n'a pas traîné, ne laissant jamais son adversaire entrer dans la partie. Et 54 minutes à peine après l'engagement et 3 petits jeux seulement concédés dans la première manche, l'affaire était déjà bouclée. Compte tenu de la vitesse à laquelle les points et les jeux de service se sont succédés au tableau d'affichage, on aurait presque eu envie de plaindre les spectateurs qui n'en ont pas eu pour leur argent. Mais cela serait faire abstraction du fait que ce même public a assisté à l'une des performances les plus abouties d'une joueuse de tennis en finale de Wimbledon, comme le reconnaissait elle-même Petra Kvitova.
Je ne m'attendais pas forcément à ça en entrant sur le court. J'avais des doutes sur la qualité de mon service, sur la manière dont mon adversaire allait réagir à mon jeu, sur le fait de savoir qui d'elle ou de moi parviendrait à mettre pression sur l'autre. Il y avait vraiment pas mal d'interrogations. Mais mon idée était de l'agresser dès le début de l'échange et je dois dire que cela a très bien marché. Oui, on peut dire que j'ai joué un des meilleurs matchs de ma carrière. J'étais in the zone, comme on dit. J'ai pris point après point sans me poser de questions et d'un seul coup, ça a été la balle de match et voilà, fini.
Contre une Eugénie Bouchard impuissante, Petra Kvitova a donc récité son tennis pour retrouver des sommets qu'elle avait atteint déjà une première fois en 2011. Promise alors à un bel avenir et même à la place de numéro 1 mondial, la Tchèque, malgré une victoire au Masters quelques mois plus tard, avait eu du mal cependant depuis à confirmer les espoirs placés en elle. Fragile physiquement, souvent rongée par le doute, très attendue par le public et les médias tchèques, Petra Kvitová a mis plus de temps que prévu pour digérer son premier succès en Grand Chelem. À 24 ans, après une première moitié de saison, elle aussi très compliquée, la gauchère, aidée désormais par un préparateur physique et un psychologue, semble enfin avoir trouvé le juste équilibre. Et même si le jeu de mots est facile, elle a reverdi sur l'herbe londonienne. À l'issue de la finale samedi, Petra Kvitová était bien consciente du chemin parcouru.
Oui, cela a été beaucoup plus difficile, mais j'apprécie ce deuxième titre d'autant plus. Lors de ma première victoire il y a 3 ans, j'avais aussi très bien joué en finale, mais à l'époque, j'avais disputé tout le tournoi sans pression. On ne s'attendait pas vraiment à ce que je gagne. Depuis, les choses ont changé et la pression que j'avais cette année sur les épaules était énorme. Mais le tournoi de préparation à Eastbourne m'a confirmé que j'étais capable de bien jouer sur gazon. Cela m'a mise en confiance avant Wimbledon. Et puis, j'ai joué 3 fois contre des Tchèques, notamment en quart et demi-finale, ce qui n'est quand même pas courant. À chaque fois, j'étais la favorite et ce n'est pas évident à gérer, surtout quand il s'agit de partenaires de Fed Cup. Mais j'avais très envie de remporter Wimbledon une deuxième fois et je pense que ça s'est vu sur le court.
Effectivement, ça s'est vu et la malheureuse Eugénie Bouchard était aux premières loges pour cela. Mais à 20 ans, la jeune Québécoise a encore tout l'avenir devant elle. Après avoir reconnu le niveau de jeu incroyable de son adversaire en finale, elle a d'ailleurs fait part de ses certitudes au micro de Radio-Canada dimanche à son retour à Montréal.
Je crois toujours dans mon tennis et je sais que je peux faire très bien. Mon objectif ultime, c'est vraiment de gagner un grand chelem. Alors je pense que j'étais très proche, mais ça va être une autre fois.
En attendant la prochaine fois pour Eugénie Bouchard, une autre fois, la deuxième, c'est donc ce qu'ont vécu les nombreux supporters de Petra Kvitová en République tchèque et notamment à Foulnek, la petite ville de Moravie du Nord qu'il a vu grandir au tennis.
Les gens là-bas me connaissent depuis que je suis toute petite. Quand j'allais en vélo à l'entraînement, que mon père me criait dessus et que je pleurais. Je sais qu'ils sont toujours derrière moi. Ils m'ont d'ailleurs toujours soutenue, même quand j'avais de moins bons résultats. Je me souviens qu'en 2011, les gens avaient suivi la finale au centre culturel municipal. Je ne sais pas comment ça s'est passé cette année, mais j'espère leur avoir donné une bonne raison de faire la fête. Ils le méritent et je les en remercie.
Ne reste plus désormais à espérer pour eux qu'il ne leur faille plus attendre 3 ans avant de revivre de semblables émotions. Mais au vu de ce qu'elle a montré sur ce Wimbledon 2014, Petra Kvitová, qui occupe désormais une place de 4e meilleure joueuse mondiale, plus conforme à son potentiel et à ses ambitions, semble enfin de retour sur la bonne voie.
Ainsi s'achève notre émission d'aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce programme qui vous a été présenté par Lucie Drexelova. Vous pouvez retrouver tous nos articles sur notre site www.radio.cz/fr. Nous vous remercions pour votre fidélité. À très bientôt. Ahoy.